Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra et se présenta devant lui et déclara : Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit : Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Car il a fait des merveilles, par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur.
Car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les enfants du primaire sont attendus par le Père Jean-Christophe. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dieu est le Dieu de tous. Il accorde son salut à tous les hommes de bonne volonté. Oui, le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, avons-nous chanté dans le psaume. Mais comment Dieu se révèle-t-il ? À qui se révèle-t-il ? Je nous invite à le découvrir à travers ses guérisons sur lesquels nous sommes invités à méditer en ce jour. Commençons d'abord par le mode opératoire utilisé par Dieu dans ses guérisons. À Naaman qui le sollicite pour être délivré de sa lèpre, Élisée, le prophète, dit « Va te plonger cette fois dans le Jourdain. » Et aux lépreux qui sollicitent Jésus pour être également délivrés de leur lèpre, il répond tout simplement « Allez vous montrer au prêtre. » Des ordres simples. Les 10 lépreux obéissent. Mais pour Naaman, c'est un peu plus difficile. Quelques versets avant le texte de la première lecture que nous avons entendu, nous l'entendons exprimer son désarroi et même sa colère. Voici ce qu'il dit. Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Ça, c'est ce que Naaman imaginait. Et de fait, il n'a même pas vu le prophète. Celui-ci s'est contenté d'envoyer quelqu'un pour lui dire « va te baigner cette fois dans le Jourdain. » Naaman ne comprend pas. Parce que l'ordre donné est trop simple pour lui. Un général d'armée, bien reconnu, bien puissant dans son pays, l'ordre est trop simple. Et pourtant, frères et sœurs, c'est dans cette simplicité que réside la grande première leçon que Dieu nous donne à travers les guérisons d'aujourd'hui. Oui, Dieu n'est pas toujours là où nous l'attendons humainement. Et il agit toujours dans la simplicité. Mais seulement, avons-nous suffisamment confiance pour accueillir Dieu dans sa simplicité, pour pouvoir accueillir son salut dans la simplicité? Peut-être comme Naaman, bien souvent, nous attendons que Dieu nous réponde d'une façon quelque peu extraordinaire. Rappelons-nous d'ailleurs, c'est parce que les contemporains, ou du moins bien des contemporains de Jésus, s'étaient forgés leur propre image du Messie, qui n'ont pas été capables d'accueillir le Fils du charpentier et surtout de profiter de ses œuvres de salut. Je dirais que le même danger nous guette aujourd'hui, frères et sœurs. Et cela peut altérer non seulement la qualité de notre relation avec le Seigneur, mais également notre témoignage. De fait, la simplicité, l'humilité restent les vertus essentielles et privilégiées pour accueillir le salut de Dieu. Nous entendons la Vierge Marie l'exprimer clairement. Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante pour la combler au-delà de ses attentes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous recommande d'accueillir le royaume des cieux à la manière des enfants et des pauvres. Oui, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est dans la simplicité et l'humilité que Dieu se manifeste véritablement et qu'il donne son salut. Et c'est d'ailleurs en s'ouvrant à cette simplicité, après bien sûr moult tractations, que Naaman peut bénéficier pleinement du salut de Dieu. Nous l'entendons dire dans cette lecture, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Oui, en s'ouvrant à la simplicité, Naaman s'ouvre à la foi. Il en est de même pour le Samaritain de l'Évangile qui obéit à cet ordre simple, mais qui continue son cheminement et qui lui aussi accède à la foi. Deux étrangers, considérés comme des marginaux, ont été capables de saisir toute la richesse du salut accompli par Dieu pour eux. Eux qui n'étaient pas censés avoir droit à ce salut. Ils en prennent conscience et ils rendent grâce à Dieu pour cette grande œuvre qu'il accomplit pour eux. Et leur attitude nous renvoie à nous-mêmes, frères et sœurs. Oui, comment nous qui nous disons enfants de Dieu, comment nous comportons-nous avec lui? Est-ce que nous pensons à le remercier et à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits? Ne sommes-nous pas souvent aveugles? Oui, nous nous sommes tellement habitués aux bienfaits de Dieu que nous les remarquons à peine. Oui, ce souffle de vie d'aujourd'hui, ce repas, cette santé, cette paix et cette sécurité que moi j'ai aujourd'hui, ici et maintenant, et que d'autres cherchent désespérément. Est-ce que je pense à dire merci à Dieu pour cela? D'ailleurs, n'en sommes-nous pas venus à considérer tout cela comme normal et même comme un dû? Ne sommes-nous peut-être pas comme cet enfant à qui on donnait bonbons et à qui sa maman demande « Alors qu'est-ce qu'on dit ?» Encore, n'est-ce pas? Nous savons demander quand il faut, mais est-ce que nous avons le réflexe de dire merci? Parce que, frères et sœurs, la louange ou l'action de grâce ouvre davantage notre cœur au bienfait, au salut de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, la prière de notre Père, toute la première partie est d'abord une action de grâce à Dieu, parce qu'elle nous dispose à recevoir justement le pain quotidien, et le pardon et la force nécessaire pour vivre devant Dieu, résister aux tentations. C'est encore pour les mêmes raisons que l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours est fondamentalement une action de grâce, parce qu'elle nous dispose, je dirais, au bienfait de Dieu. Qui dit merci s'attire de nouvelles grâces, dit la sagesse. Et cela est vrai pour le Samaritain, car Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Parce que celui-là était capable de discerner et de revenir vers le Seigneur, de comprendre la profondeur, toute la richesse de la grâce accomplie pour lui, Jésus lui donne plus qu'il n'espérait. Ta foi t'a sauvé. Oui, les 10 lépreux ont tous été guéris. Ils ont tous été transformés, tous été réintégrés dans le monde des vivants. Mais un seul sera véritablement sauvé parce qu'il a reconnu la force, la gloire de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il est sauvé, cela signifie qu'il est à jamais accueilli dans la famille de Dieu. Oui, ta foi t'a sauvé, nous propose le Samaritain comme modèle de vie chrétienne. Tandis que les autres, les lépreux, se sont contentés d'obéir, je dirais, légalement. Le Samaritain, lui, chemine dans la confiance en se tournant vers Jésus dans une action de grâce et dans un geste d'adoration. Et par là, ce Samaritain nous invite à vivre notre foi non par devoir, mais dans une obéissance confiante et filiale. Il ne s'agit pas, en effet, de faire ce qui est attendu. Voilà ce qui est permis dans notre foi, je le fais. Ceci n'est pas permis, je ne le fais pas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, il faut plus que cela. Et c'est pour cela qu'en appréciant ce mouvement du Samaritain, Jésus nous signifie que la vie chrétienne ne saurait se contenter du minimum acceptable. C'est insuffisant pour mener une vie de qualité qui porte de bons et beaux fruits. Oui, un chemin de vie intérieure quotidien est nécessaire. Parce que pour Jésus, ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette sur le flacon, ce n'est pas obéir tout simplement au règlement. Mais c'est aussi cette capacité la capacité de notre cœur à rendre grâce, à rejoindre Dieu, à rejoindre sa gratitude. Et l'attitude du Samaritain nous renvoie à nous-mêmes. Oui, quel est notre cheminement? Quelle est notre volonté de cheminer avec Dieu? De quoi est-elle faite notre foi? Est-elle statique ou dynamique? Si nous sommes Il nous est donné du moins de méditer sur les différentes guérisons d'aujourd'hui, frères et sœurs. C'est bien sûr, d'une part, pour que nous puissions découvrir comment Dieu se révèle à nous, que nous puissions découvrir son œuvre bienfaisante pour chacun de nous. Mais c'est aussi pour que sa façon d'agir nous inspire. Oui, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. La foi, nous répond Jésus, c'est cet élan de gratitude, cette reconnaissance envers celui qui est à l'origine de tout. Mais c'est aussi ce qui relève. C'est ce qui libère, et toute la vie de Jésus a consisté justement à relever et à libérer. Jésus a lutté toute sa vie contre les exclusions, contre toutes les formes d'exclusion, notamment les barrières dressées au nom de la religion. Pour en revenir aux lépreux, vous savez, dans la Bible du moins, il y a un livre qu'on appelle le Lévitique qui régissait minutieusement les rapports de l'homme avec Dieu, surtout quand il était atteint de la lèpre. Celui qui était atteint de la lèpre était exclu du culte, était exclu de la communauté. Il était même, d'une certaine façon, mort pour la société. Et pire encore, généralement, on associait à l'idée de la maladie, et encore plus à l'idée de la lèpre, la notion de péché. On se disait, si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il est pécheur. Jésus, en opérant ses guérisons, veut que nous puissions changer de mentalité, veut que nous puissions comprendre que Dieu accueille tout homme avec ce qu'il est. Dieu accueille même les pécheurs et Dieu veut donner à chaque être humain sa dignité. Et bien sûr, nous invite à lui emboîter le pas. C'est là, pour lui, l'expression véritable de la foi et ce qui doit aussi être le mode de vie du chrétien, réconcilié, réintégré. Et c'est pour cela que dans la deuxième lecture, Saint Paul, en exhortant son disciple, insiste sur cette dimension. Il dit, souviens-toi, fais mémoire de l'action de Jésus, celui-là qui est mort et ressuscité. Mais cherche à comprendre davantage pourquoi justement il a donné sa vie pour nous. C'est pour que chaque être humain puisse bénéficier du salut de Dieu. Et voilà quelle est ta mission. En se donnant lui-même en exemple, il lui dit, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Et par là, Saint Paul nous invite, bien sûr nous aussi, à nous engager dans cette dynamique qui reste la véritable manière de proclamer l'Évangile. Et cet appel est bien relayé par notre pape Léon dans sa nouvelle exhortation apostolique qui vient de paraître. Dilexité, je t'ai aimé. Et dans cette exhortation, il nous invite à faire le choix préférentiel des pauvres, des exclus et des marginalisés. Voici ce qu'il écrit. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, le Seigneur a encore quelque chose à nous dire. Oui, frères et sœurs, le salut en Jésus-Christ est offert à tous, même à ceux et celles qui se sentent exclus. Nous pensons bien sûr à tous et lépreux de tous les temps, les personnes qu'on dit anormales, les marginaux, ceux qui dérangent bien notre vie tranquille. La bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous. Elle s'adresse aux pauvres, aux prisonniers, ceux et celles qui sont tombés bien bas. Oui, le monde les méprise, mais ils ont la première place dans le cœur de Dieu et ils doivent aussi avoir la première place dans l'Église et dans le cœur des enfants de l'Église. Car tout l'Évangile nous dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus compte sur nous pour le leur dire. Alors en ce dimanche, demandons-nous, en ce mot, cette semaine de mission, oui, quels gestes allons-nous poser pour changer la vie de ceux qui sont dans le besoin? Souvent, il suffit de peu, mais ce peu, il faut bien quelqu'un pour l'accomplir. Que l'intercession de Notre-Dame du Rosaire nous aide à nous rendre davantage disponibles pour cette mission de charité auprès des pauvres que le Christ nous confie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.